Les événements de 1940 sont assez loin de nous, ça fait déjà plus d'un quart de siècle. Et je comprends qu'il y a des jeunes gens aujourd'hui qui disent Hitler, qu'est-ce que c'est ? Les gens de ma génération actuellement, c'est-à-dire les vieux de maintenant, Hitler, c'est quelque chose pour eux. J'ai assisté d'assez près à ces événements de 40, j'étais professeur à Bordeaux, j'ai vu un certain nombre de choses et je voudrais vous en parler, bien entendu, en quelques minutes, il faut que je sois dit. Alors je vais retenir quatre souvenirs. Le premier, il est de décembre 39. C'était la drôle de guerre, comme vous savez, puisque vraiment c'est à partir du 10 mai 40 que la guerre s'est déclenchée. J'étais professeur à Bordeaux, je vous l'ai dit, j'étais lié depuis des années avec un dominicain, pourquoi pas dire son nom, qui s'appelait le révérend Père Médieu, et qui était un directeur de la vie intellectuelle. Nous avions une complicité, même une histoire ensemble. En 37, j'avais publié dans la vie intellectuelle un article intitulé « Par notre faute » et qui avait failli faire sauter la vie intellectuelle. Bon, enfin, on a fait des copains. Il était mobilisé, capitaine d'artillerie, et il était venu en permission à Bordeaux, décembre 40, pour voir sa famille, puis il avait fait une visite. Il m'avait raconté des choses qui le laissaient assez perplexe, un peu interloqué, et qui m'ont troublé beaucoup. Il me disait, si dans ma batterie, je ne sais plus sur quel point du front il était, mais ça n'en a imaginé, dans ma batterie, me disait-il, la plupart des officiers, puisque nous sommes inoccupés, nous discutons, et je les vois, presque tous, qui déclarent cette guerre complètement folle, enfin, une guerre totalement absurde. Heureusement, si c'est dit que c'est une drôle de guerre, et qu'on n'attaque pas, et que les Allemands eux-mêmes n'attaquent pas, parce qu'elle est contre nature, cette guerre. Le danger, voyez-vous, par ici. Le danger, c'était la Russie soviétique. Et se battre avec Hitler, c'est se battre avec le rempart contre la Russie soviétique. Alors il faut s'arranger le plus vite possible avec Franco, avec les Soviétiques, avec tout l'Occident, pour que nous soyons prêts à en découdre avec les Russes. C'était d'ailleurs l'idée de Fédon, ça veut dire à ce moment-là préparer une offensive contre la Russie au nord et au sud, mais pourvu qu'on ne se batte pas. Alors Médieu me disait, je vous attends à des choses cyniques, si jamais la guerre se déclenche. Un. Deux, ça se passe maintenant en Suisse. C'est en février 40, j'avais été envoyé par les affaires étrangères en mission en Suisse. Une mission qui était double en apparence, enfin, c'est pas seulement en apparence, parce que j'ai des contacts littéraires, et qui d'après m'avait demandé de faire un rapport sur ce que j'aurais vu en Suisse, et sur les contacts que j'aurais pu obtenir, pour savoir ce qu'on en pensait de notre guerre de la France. Quoi. Le 3 février 40, je me trouvais à Genève. Et là, pardonnez-moi de pas dire de nom propre, il y avait un grand dîner de soir, et je me trouvais à côté d'un industriel français, important, retraite, qui était là en mission, lui aussi, mission d'achat, donc un personnage officiel gouvernemental. Et qui tenait exactement les mêmes propos que ceux qu'on avait rapporté le père Médieu, à savoir, guerre sûre, mais il faut s'arrêter le plus vite possible, le danger c'est le risque. J'avais eu un petit frisson, enfin la petite mort. Le lendemain, c'était le 4 février, 40, j'étais à Berne. J'avais des amis à Berne, je lui ai demandé qu'on organisait une réunion privée, c'était dans un salon, je ne sais pas si je parlais de Morgan, français, absolument littéraire, quoi. Et on avait fait venir là, parce qu'on dit que ça va être désiré avoir des contacts, le chef du département politique fédéral. Il s'appelait, je crois, M. Pilégol. Alors, j'ai fait mon petit exposé sur Mauriac. Juste après, je suis passé dans un petit salon, et là, je me suis trouvé seul à seul avec M. Pilégol. Il a attaqué tout de suite. Il m'a dit, alors, monsieur, mais qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? Je lui ai dit, moi, je ne pense rien, je suis un simple citoyen français, mais vous, qui êtes chargé des affaires étrangères suisses, vous avez fait une opinion. Oui, oui, j'ai une opinion, disait-il. C'est plus grand que moi, je levais la tête pour regarder Pilégol. Parler avec une supérieure et une autorité extrême, et avec une espèce d'allégresse, assez effrayante. Et ce qui m'a dit est tellement resté ancré en moi, que je peux vous le dire littéralement, il m'a dit ceci, mais je vais vous dire ce qui va se passer, M. Lima. Quand les Allemands attaqueront, votre armée française, voilà, là, ça va, comme ça. Alors je ne commande pas, je relate, enfin l'anecdote, c'est ceci, c'est vrai, mais. Juin 40 maintenant, j'étais donc professeur à Bordeaux, et tout à coup nous avons vu le gouvernement s'est affilié sur Bordeaux, un grand branle-bas qui se passait partout dans toute la ville, et deux ananis, comme on disait, enfin, les soldats indochinois, deux ananis, qui se trouvaient en faction dans la porte du douanier de la République de l'Est. On demandait, enfin, les uns les autres, qu'est-ce que c'est? Alors, j'étais chez le concierge, il m'a dit, ben, c'est un personnage très officiel, c'est un colonel qui venait de promu général, général de brigade, c'est Paul Reynaud qui l'a associé au gouvernement, il s'appelle De Gaulle, il est là dans le bureau. J'avais entendu parler de ce colonel De Gaulle par Mme Daniel Ropp, qui dirait une collection présente chez Pion, et il manquait beaucoup De Gaulle. Je ne l'ai pas vu. Mais quelques jours plus tard, De Gaulle est parti, vous le savez, pour l'Angleterre, il a fait son appel, et mon camarade Ropp, qui était à la faculté avec moi, enfin, il n'était pas prof à la faculté, mais il venait me voir souvent, avait changé de ton, vous savez, radicalement. Autrefois, c'était le colonel De Gaulle, que l'on se parlait avec respect. Il l'appelait maintenant Charles, et il me disait, en se piquant le front avec l'extrême du Saint-Index, devenir fou devant Charles, il disait. Dernière image. Ça se passe dans un grand hôtel, je crois bien me rappeler le nom, c'est le Royal Gascogne. L'armistice a été déclaré. L'agitation incroyable s'est passée sans rien. Vous savez, Bordeaux, à ce moment-là, il y avait ses soldats débandés, il y avait des tas d'officiers dans les cafés qui ne savaient même pas où était leur unité. Ils s'en moquaient du reste pas mal. Il y avait Paul Reynaud qui est descendu dans ce hôtel. Je me rappelle quand j'y suis allé, je comme était marqué, j'étais assez bien avec tous ces milieux politiques bordelais. J'étais donc là, je devais voir Bergeron. J'ai vu Paul Reynaud qui descendait de cet appartement et qui disait à voix haute, j'aurais peut-être pu parler un petit peu moins fort, « Dites que je suis chez Pellicure !» Enfin, il avait le droit, les choses de alors là, dans ce hôtel de Rosanzero, le Royal Gascogne, il y avait un groupe. Ça, c'est pas non plus facile de mémoire. C'est un groupe qui entourait un personnage bien connu à Bordeaux qui s'appelait Philippe Henrieux. Philippe Henrieux, c'est député d'extrême droite de Bordeaux. Nous étions tous plus ou moins matraqués, hein, tellement c'était terrible qui arrivait. Henrieux, c'était pas simplement chez lui, là, le calme de quelqu'un qui se frappe à la tempête. C'était, écoutez-moi bien, je vous ai dit, moi je c'était un homme jubilant, ritanant, triomphant. Triomphant dans le désastre. Parce que, pardon, vous voyez, jusqu'à présent, c'est un aboyeur de l'extrême droite, et maintenant, grâce au désastre, grâce à l'insurrection de la République, c'était pas chance. Quelques jours plus tard, je suis allé à Vichy, je voulais voir, à côté de Vichy, à Pistel, je voulais voir Giraudoux, et j'ai trouvé la même atmosphère, une euphorie extraordinaire. La tour autour du maréchal, ce maréchal que l'on en français, parce qu'il allait bientôt serrer la main à Hitler, parce qu'il nommait un commissaire aux affaires juives, parce qu'il rétablissait la société sur ses bases. J'en ai compris, il savait des choses, ce jour-là. C'est une espèce de confirmation, comment dirais-je, une confirmation aveuglante, c'est presque obscène, de tout ce que j'avais pressenti, à savoir qu'il y avait une part de la France qui se réjouissait du désastre. La droite française avait vécu dans la terreur, allait dans la terreur depuis le Front populaire. Alors maintenant, grâce aux votes et aux tanks et aux avions des nazis, le Front populaire de la République était par terre. Alors on allait pouvoir protéger, comme on dit, les grands intérêts. J'ai compris là cette continuité, cette première continuité de la politique intérieure française, 1792, au moment de la République. Les émigrés, qu'est-ce que c'est? C'est les aristocrates, sont les privilégiés, qui vont être du côté de l'envahisseur. 1870, toute la droite française, toute la bourgeoisie française est contre Gambetta, parce que Gambetta représente la résistance. Certes, le gouvernement français, les juges sont d'accord avec Bismarck contre la résistance française, parce que la chance de la République, c'est la République, c'est les structures économiques et sociales qui sont en péril. 1940, la même chose, encore de la politique intérieure. Alors, c'est pas tellement surprenant de voir ce que l'on a vu quelques mois après, à Lyon, et j'ai vu aussi, au Grand Hôtel, ça s'appelle Grand Hôtel, au centre de Lyon. Tout un étage du Grand Hôtel qui était partagé également, d'un côté la Gestapo, de l'autre côté Maurras et l'Action française. C'était la confirmation, l'illustration, enfin la matérialisation concrète d'un paradoxe. Apparent. Paradoxe. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté, Jules Maurras, des super patriotes, vous savez, des gens qui ont vu la France seule, enfin, le super nationaliste. Et ils étaient à ce moment-là les subsidiaires, les collaborateurs de l'ennemi. Et vous voyez la souveraineté qui désignait nominativement à l'occupant allemand les gens qu'il fallait poursuivre, les gens qu'il fallait abattre. Une rage contre eux du côté de la résistance, parce que la résistance est encore la chance de la République. Qu'est-ce qui fait ces choses-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a compris? Parmi mes auditeurs, il y a certainement une quantité de gens qui sont ce qui fait de ces ordres. Ils n'ont pas compris encore le dessous du jeu, le dessous des cartes. Et il ne faut pas compter sur une histoire aussi difficile pour le dire jamais. Mais c'est précisément ça dont je voulais vous parler. Ça, j'en ai été le témoin. À travers ces petites choses qui manifestaient à mes yeux une réalité affreuse.